Et bon, pour ne pas mentir, je ne l'ai pas eu au téléphone pour savoir quand est-ce qu'il rentre, mais je suis sûre qu'il pense à nous aujourd'hui. Donc, je pense que je peux dire de sa part, même si je ne l'ai pas eu, qu'il se joint à nous dans la pensée et qu'il prie pour nous. Voilà. Alors, le sujet de la méditation de ce matin que je souhaite partager avec vous, il est très simple, mais très compliqué. Voilà un verset de la Bible. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je l'ai lu il y a une vingtaine d'années quand j'ai étudié le livre de Job. Et puis, il est resté dans ma tête, puis je l'ai oublié. Oublié. Et puis, depuis quelques semaines, depuis un mois ou 2 mois, c'est revenu, ça revient, ça n'arrêtait pas de revenir dans ma tête. Je ne savais plus où est-ce qu'il était dans Job, hein, parce que depuis 20 ans, il était enfoui dans ma pensée, puis ça revenait, puis je suis allée le chercher, le retrouver, et je me suis sentie un petit peu poussée de faire une méditation là-dessus. Alors, il dit la chose suivante: Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Déjà, on voit le mot souffrance. Je vous le dis déjà, oubliez-le. Au fur et à mesure de l'avancement, de la discussion, dans la méditation qu'on va avoir et des différentes traductions, ben, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce mot qu'il faut utiliser. Je l'ai laissé parce que souvent, dans beaucoup de Bibles, pas uniquement dans Second 1910, hein, que j'aime bien, mais dans beaucoup d'autres, on trouve encore ce mot. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Mais avant de pouvoir comprendre ce verset, bien sûr, il faut le mettre dans son contexte. On ne prêche pas sur un sujet qu'on tire comme ça de la Bible et on en fait toute une méditation. Il faut le remettre dans son contexte. Mais le contexte est encore plus difficile à comprendre. Le passage que je vais vous lire, Job chapitre 36, du verset 15 au verset 21, pour ceux qui piochent dans les commentaires bibliques théologiques, vous allez trouver une chose qu'ils ne savent pas comment traduire réellement ces passages. Au moins 3 de ces versets que je vais vous lire. Et beaucoup disent la signification de ces quelques versets sont perdus à jamais. Mais ne vous inquiétez pas, on va quand même pouvoir tirer un enseignement. Alors, si vous avez votre Bible, ouvrez-la, suivant la traduction que vous avez. Sinon, vous pouvez suivre avec moi la lecture. N'oublions pas le contexte. Job a perdu énormément de choses. Accusé par Satan qu'il aime Dieu à cause des bénédictions que Dieu lui a données. Et pour démontrer le contraire, le Seigneur, l'Éternel, Dieu a autorisé à Satan de mettre sa main sur Job, en d'autres termes, de lui faire venir plein de malheurs. Il a perdu toutes ses richesses. Il a perdu ses enfants. Il était malade jusqu'à en avoir plein qu'il n'arrêtait pas de se gratter. Et il ne comprenait pas pourquoi. Et le comble de malheur, ses amis qui étaient venus pour le consoler se sont mis contre lui en lui disant que ce qui lui arrive, c'est parce qu'il a péché. Or, lui, il contestait cela. Et il parlait et personne ne veut l'écouter. Élihu, un quatrième personnage arrive et commence sa discussion avec Job. Et voilà comment commence ce passage. Job chapitre 36, verset 15 au verset 21. Élihu, qui dit à Job: Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. C'est par la souffrance qu'il avertit. On voit encore ce mot souffrance qui apparaît. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large, en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie, et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse? Et même toutes les forces que tu pourrais déployer, ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Et le dernier verset, qui sera l'objet de notre méditation ce matin, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Alors, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Comment on va, pourquoi le choix de ce passage? Dans ces versets, si on le prend tel qu'il est, on croit que Élihu est en train de dire à Job de se détourner du mal afin que Dieu le rétablisse. Et il avertit Job de ne pas se tourner vers le mal à cause de ce qui lui y arrive. C'est la première réflexion qui peut nous arriver à l'esprit en le lisant. Or, je pense que ce passage est beaucoup plus profond que ça. Et il y a des choses beaucoup plus importantes à retenir une fois qu'on l'a un petit peu décortiqué. Alors, comment on va procéder? Pour procéder, on va faire de deux manières. La première manière, elle est la plus difficile, parce que je demande votre attention. Je demande votre attention pour suivre un raisonnement spécifique qui va nous amener à comprendre la signification profonde de ce verset. Mais je vous promets une chose, que après avoir votre attention pour la compréhension de ce que ce verset veut dire, on va aller à une pratique. Et la pratique, vous allez la voir, vous allez la découvrir dans votre vie vous-même, et surtout, rapidement, on va prendre 5 personnages bibliques qui ont vécu ceci, et on va voir quelle a été la réaction de chacune d'elles, et théorie et pratique qui va être pour nous, je pense, bénéfique. Alors, on va y aller. Le premier verset que je veux prendre, c'est le verset 15, qui dit « Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, que je le lise par là, car c'est par la souffrance qu'il l'avertit. » Voilà le mot « souffrance » qui revient. Louis II, quand il a traduit le mot par « souffrance », il a mis « souffrance ». Mais le mot ne veut pas dire « souffrance ». Le mot veut dire « étroitesse ». Il veut dire « à l'étroit ». Il veut dire diminuer un espace de liberté ou de mouvement. Vous comprenez bien que si Second va traduire ou les autres traducteurs, ils ne vont pas nous dire « Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, c'est par l'étroitesse ou c'est par en diminuant sans espace, en rétrécissant sans espace, qu'il va l'avertir. » C'est une traduction qui ne voudra rien dire dans ce sens. Donc, les traducteurs, comme normalement ils font, comme ils doivent faire, ils réfléchissent au contexte de Job. On vient de parler du contexte de Job. Il souffre, Il souffre de la maladie, il souffre d'avoir perdu ses enfants, ses richesses, ainsi de suite. Donc, pour eux, dans sa tête, il est dans un contexte de souffrance. Mais les traducteurs connaissent aussi bien la Bible, de A à Z, pas uniquement le passage qu'ils sont en train de traduire. Ils ont sûrement aussi lu Hébreu, chapitre 12, versets 4 à 11. On le connaît tous. Dieu châtie ses enfants comme un père l'enfant qu'il chérit. Et ainsi de suite, tout un paragraphe à ce sujet. Ils connaissent aussi Proverbe, chapitre 3, versets 11 à 12, qui parle du châtiment de Dieu envers les personnes qu'il aime. Et dans le contexte qu'ils ont, Dieu, quand il châtie quelqu'un, c'est pour le remettre sur le droit chemin. Et d'après Romains 1, le comble du malheur que peut arriver à un chrétien, c'est que Dieu ne le châtie plus. Ça veut dire, il l'a laissé tranquille, il ne s'occupe plus de lui quand il dévie d'un chemin. Donc, dans la tête d'un traducteur, qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'Élu est en train de dire à Job, ce qu'il t'arrive, c'est parce que Dieu est en train de t'avertir afin que tu reprennes le bon chemin. Je ne dis pas qu'il a raison, juste je poursuis la pensée. Mais ce n'est pas si sûr que cela. Là, en lisant ce passage, je le lis en arabe, et là je trouve le même mot qui est utilisé, étroitesse, rendre à l'étroit. Il ne refait pas par le mot souffrance, il le laisse tel qu'il est. Et là, je me suis rappelé, pleine de discussions entre mes parents. Quand ils ont des discussions un petit peu animées entre eux. Et là, je vois bien que ce mot étroitesse, on l'utilise très souvent au Moyen-Orient. Et j'ai réfléchi à sa compréhension et il y en a deux. La première, quelqu'un qui a son espace rétréci, c'est le mot qui est utilisé, qui a été traduit par souffrance, veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, mais il ne sait pas par où commencer à les résoudre. Tous les problèmes me tombent en même temps et je ne sais plus comment le résoudre. Une deuxième utilisation, et celle-là que je réentends ma mère qui discute avec mon père, qui lui dit « arrête de rétrécir mon espace », en d'autres termes, elle était en train de lui dire, ou parfois c'est lui qui le lui dit à ma mère, quand ils discutent entre eux, c'est que tu es en train de rejeter tous les arguments que je te donne, un après un, et je ne sais plus quoi faire, ni comment réagir. N'est-ce pas ça, Job, qu'il est en train de vivre? Dans tous les chapitres, n'est-ce pas ça qu'il est en train de faire? Il discute avec ses amis un argument après l'autre et il sent en train de rejeter tous ses arguments l'un après l'autre, de sorte qu'il ne sait plus quoi leur dire et à la fin, il arrête avec eux. Il discute avec Dieu, il va lui parler et il n'a toujours pas de réponse de lui. Son espace est rétréci complètement. Il ne sait plus comment réagir, comment prendre tous les problèmes qui lui arrivent et tous les arguments qu'il est en train de dire, que lui, il est juste à sa manière. On n'est pas en train de le juger. Et tout ce qui lui arrive, il ne comprend pas. C'est exactement ce que arrive à Job. Son espace est complètement rétréci. Il se retrouve seul avec toutes ses argumentations, avec ses amis et aussi avec Dieu. Continuons notre réflexion et passons au verset 17. Et c'est le dernier, après on va passer au verset qui nous intéresse. Le verset 17, il dit la chose suivante. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Si tu te défends comme un impie, qu'est-ce que cela veut dire? Si tu te défends comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Si on veut le traduire littéralement, on a la chose suivante, qui est compliquée à comprendre, mais elle est comme ça. L'argument du malin, tu as accompli. L'argument du malin, tu as accompli. Et l'argument et le jugement te retiennent. L'argument du malin, tu as accompli. Vous vous rappelez ce qu'il a fait Satan au début? Quelle était l'argumentation devant Dieu? Job t'aime parce que tu l'as comblé. L'argument du malin, tu as accompli. Il est en train de le prévenir. Et l'argument et le jugement te retiennent. En d'autres termes, il lui dit « Attention !» La manière dont tu argumentes, tu es prisonnier de la manière dont tu réfléchis et tu argumentes. Tu es prisonnier de la manière dont tu es en train de réfléchir et de la manière dont tu es en train d'argumenter ce qui t'arrive. Hein? Ça fait 35 chapitres qu'il argumente. Qu'est-ce qui n'est pas d'accord avec ce qui lui arrive? Il est tellement pris dans son argumentation, dans sa manière de réfléchir, qu'il en est prisonnier et il n'arrive pas à voir tout ce qu'il y a derrière. Prisonnier de son argumentation et de sa manière de réfléchir. Que sont les arguments de Job? Quelle est l'argumentation du malin? Je viens de vous la citer au départ. Mais n'est-ce pas ce qu'il a voulu insinuer à Dieu? Il est en train presque de gagner. N'est-ce pas ce qu'ils insinuent à nous souvent dans notre argumentation? Quel est son jugement de Job? Job est prisonnier de son jugement. Dieu est injuste. Ce qui lui arrive est injuste. Il est prisonnier de ce jugement, de cette argumentation. Il en est prisonnier. Voilà pour cette partie. Et maintenant, on va passer à la dernière, celle qui nous intéresse. Je ne veux pas retraduire les autres versets parce que si vous regardez le mot à mot, vous allez dire, mais comment les traducteurs ont pu traduire comme ça? Et beaucoup de commentateurs arrêtent de réfléchir sur les autres versets. Ils n'y pensent plus. Et beaucoup pensent qu'on n'y arrivera jamais à comprendre ce que ça veut dire. Poursuivons maintenant au verset 21 qui dit la chose suivante. Garde-toi de te livrer au mal car la souffrance te dispose. Bien sûr, le mot ne veut pas dire souffrance. Le mot veut dire humiliation, abaissement. Mais dans l'esprit du traducteur, il faut qu'il reste conforme à sa manière d'avoir vu. C'est pour cela que Segond et bien d'autres continuent à traduire par souffrance, la souffrance qui dispose. Mais le vrai mot, c'est humiliation ou abaissement. Et Darby, qui aime toujours traduire les choses d'une manière littérale, il dit la chose suivante, et très bien, « Prends garde à toi ». Et le texte commence comme ça, par un avertissement, point, et il y a la suite. Prends garde à toi, un avertissement, puis il y a la suite. Il dit, prends garde à toi, ne te tourne ou détourne. Ça, les deux sont bons. Ne te tourne pas vers l'iniquité, vers le mal, vers le péché, car tu l'as choisi. C'est pas elle te pousse, car tu l'as choisi. Au lieu de l'humiliation ou abaissement. Dans une pensée orientale, où on croit que la souffrance ou le mal à cause d'une punition, et c'est ce que les trois amis de Job sont en train de lui dire, c'est une humiliation pour la personne. La personne est humiliée. Et Job est humilié devant ses amis. Parce que c'est à ça qu'il pense. Dans sa tête, je ne dis pas qu'il a raison. D'accord ? C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en se mettant dans sa tête, il est abaissé. Job est abaissé, Job est humilié. Et Élihu est en train de lui dire, prends garde. Prends garde, Job. Ne te tourne pas vers l'iniquité, vers le péché, car tu l'as choisi au lieu de l'humiliation. Tu n'as pas accepté l'humiliation qui t'a arrivée ou l'abaissement. En d'autres termes, si je veux revenir à une traduction qui respecte un petit peu celle que je viens d'afficher en haut, garde-toi de te livrer au mal, car l'humiliation ou l'abaissement t'y dispose. Se détourner vers le mal ou se tourner vers le mal, il est là le danger. C'est pour cela que le verset commence par « danger ». Garde-toi. Et pour se tourner vers le mal, on va argumenter, on va se donner une raison pour le faire, pour s'autoriser à le faire. Et vous allez voir comment. On va se donner, à cause de l'humiliation, ou à cause de la souffrance morale, si vous voulez, à cause de l'abaissement, on va se donner une argumentation, une autorisation pour se tourner vers l'iniquité, tourner vers le mal et faire ce qui est mal, à cause du sentiment d'injustice. Je vous ai promis une partie un petit peu, je ne dis pas théorique, mais doctrinale, théorique si vous voulez, et vous allez voir que la pratique est très facile à tomber dedans. Je vais vous citer des exemples bibliques, mais pensez-y. Chacun de nous va retrouver des fois, des dizaines de fois, si ce n'est pas plus, que dans notre vie, on est tombé dans ce piège. Quelques exemples de comportements, donc, de personnes qui ont été humiliées et abaissées. Le premier, vous le connaissez bien, hein? C'est qui ? C'est Caïn. Que dit le passage biblique ? Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ça ne vous est jamais arrivé d'amener des cadeaux pendant un anniversaire à quelqu'un, et puis, pouf, il l'ouvre vite, il le met de côté, et puis après, il regarde un autre. Non ? Comment vous vous êtes senti là ? Bon, je sais, ce n'est pas les mêmes proportions, mais... Hein? Et le cadeau que vous avez offert qui se trouve sur Internet pour quelqu'un qui veut le vendre ? Et ne vous êtes vous, un petit peu senti humilié, je sais, ce n'est pas la même proportion. Mais mettez-vous maintenant à la place de Caïn. Lui, il fait une offrande de son travail. Hein? On aime bien donner une offrande de notre travail, je te donne ça. C'est un honneur que vous faites à quelqu'un quand vous lui faites une offrande, un cadeau de votre travail, pas de l'argent du copain. C'est un honneur. Et qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'il voit ? Son frère, il est accepté, et le fruit, et lui, bon, nous, on comprend aujourd'hui le pourquoi, mais mettez-vous à sa place. Voilà, mon offrande est rejetée. Ce n'est pas humilié, ce n'est pas une humiliation, ce n'est pas un abaissement pour lui. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu as agi bien, tu te relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Dieu sait, Dieu comprend ce que fait l'humiliation dans le cœur de quelqu'un et il le prévient, il le conseille, il lui dit attention. Le péché est couché devant ta porte, et toi domine sur lui. On y reviendra. L'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Il est humilié, abaissé. C'est le mal qui porte ses désirs vers Caïn en premier, mais l'Éternel le conseille. Domine sur le mal qui le pousse à avoir une attitude, le visage abattu, hein. D'autres traductions, l'air sombre, le visage tombé. C'est la traduction littérale. Air sombre. C'est la première attitude de quelqu'un humilié, non? Le visage sombre. Juste avant qu'on commence à méditer le mal. Prenons un autre cas. Vous vous rappelez de le cas de Anne, l'épouse de Elkanah? Hein? D'accord? Juste, je vais vous rappeler un passage. Il avait un homme de Romathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait, on parle beaucoup d'Anne, pas de Pénina, rarement, si en mal. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas, n'en avait point. Chaque année, s'étant monté de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Pourquoi? Car il aimait Anne. Que pensez-vous de ça? Qu'est-ce qu'elle va penser, Pénina? Moi, si c'est marié avec moi, c'est pour être une mère porteuse. Excusez-moi le mot. C'est pour avoir des enfants. Il n'a pas pu avoir d'enfants avec Anne, qu'il aimait, et il n'arrête pas de le dire, et de le manifester. Et moi, je suis quoi pour lui? Juste pour avoir des enfants. Elle n'est pas humiliée. Elle n'est pas abaissée. Qui de nous aimerait être à sa place? Elle est humiliée, Pénina. Elle a été abaissée comme Anne. Anne aussi a été humiliée parce que dans ce temps, ne pas avoir d'enfants, c'est humiliant. On ne rentre pas dans la discussion pourquoi c'est vrai ou pas vrai. Hein? Ce n'est pas la question. Anne a été humiliée. Anne est abaissée. Mais Pénina aussi. Autant qu'elle. Ou peut-être plus qu'elle, je ne sais pas. Son mari ne l'aime pas, il aime l'autre. S'il s'est marié avec elle, c'est parce qu'il a besoin d'enfants, des héritiers, c'est tout. Et il le manifeste et il le dit. Pénina, ça fait trois. Qu'un, Anne, Pénina. Job, vous connaissez Job, on en a parlé de lui, on ne va pas y revenir, c'est la quatrième personne. Mais qui est la cinquième personne? Son épouse. Qui a aussi perdu ses enfants? C'est elle. Elle a aussi perdu ses enfants comme Job. Elle a aussi perdu les richesses comme Job. Il n'y a pas que elle. Elle aussi, elle vit dans un monde où on croit que ce qui nous arrive, c'est que si nous arrive des malheurs, c'est à cause d'une faute qu'on a commise. Je ne dis pas c'est vrai encore une fois. Mais remettons-nous dans sa tête. Elle aussi est humiliée. Elle aussi est abaissée comme Job. On parle d'elle que mal. On va voir pourquoi. Alors, poursuivons. Quels sont nos sentiments face à l'humiliation? Je vous pose cette question. Je ne veux pas répondre à votre place. Mais chacun de nous, combien de fois il n'a pas été humilié ou abaissé dans la famille, au travail, dans l'église? Combien de fois n'a pas été humilié ou abaissé? Et très souvent, qu'est-ce qu'on a comme sentiment? C'est injuste, non? On commence par un sentiment logique, c'est injuste. Mais après, on se révolte. Et le problème arrive après. Alors maintenant, que peut être, on a vu que peut être notre sentiment face à l'humiliation. Maintenant, que peut être la réaction? La réaction, elle peut être négative dans un premier temps. C'est le cas de qui? Abel. Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Abel. Le cas de Pénina, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit des méchancetés. Elle s'est révoltée. Elle justifie son action. Et elle le fait. Méchanceté envers Anne. Et l'épouse de Job, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Maudit Dieu et meurt. Elle lui dit, mais regarde tout ce qui tu arrive. Elle justifie l'injustice. Elle justifie. Et elle lui dit, maudit Dieu et meurt. Voilà les réactions négatives de trois personnes qui, pareil que les autres, ils ont eu le même sentiment, le même abaissement, la même humiliation. Maintenant, regardons les réactions justes ou positives. Mais avant de cela, j'aurais aimé rappeler dès le début de la Genèse, dès le début, Dieu était conscient, l'Éternel était conscient de ce problème. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras le visage. Si tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc, l'Éternel, dès le début, nous dit, faites attention à ça. Le péché est couché devant la porte, domine sur lui. Dieu ne justifie pas l'acte d'injustice qu'on est en train de commettre. Il nous demande dès le début de dominer, pas de succomber. Continuons notre réflexion. Que fait Anne? Comment Anne a réagi à cette humiliation? Elle est allée dans la maison de Dieu. Elle a ouvert son cœur à Dieu. Elle a prié Dieu. Et ce qui est très important pour moi, dans cette ouverture à Dieu, c'est qu'une fois qu'elle a amené son problème à Dieu, son humiliation, elle s'en va, elle mange, et son visage ne fut plus le même. Elle n'est plus revenue en arrière. Oui, mais quand même, il m'a fait ça. Oui, mais quand même, elle m'a fait ça. Oui, mais quand même, je n'ai pas eu d'enfant. Oui, mais, non. Sa réaction était différente. Elle a amené à Dieu. Elle n'a pas encore eu d'enfant. Hein. Elle n'a pas eu encore. Elle n'a pas vu l'accomplissement. Elle n'a même pas une promesse de Dieu. Mais une fois qu'elle l'a amené à Dieu, elle s'est déchargée de l'amertume, de cette humiliation, et son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Il n'est plus le même. Pardon. Elle va dans la maison, elle expose son injustice à l'Éternel et s'en va le cœur déchargé. Job, qu'est-ce qu'il a fait Job? Job, il a répondu avec sagesse à son épouse. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Quoi? Ne recevrons-nous de Dieu le bien et ne reçoit-on pas le mal? Il a su répondre à son épouse. Ne recevrons-nous de Dieu le bien et ne reçoit-on pas le mal? Cette phrase ne veut pas dire que Dieu envoie le mal. Hein? Juste, je l'ai mis, je ne veux pas en parler de ça aujourd'hui, sinon on n'a pas fini. Mais, et il faut finir. Donc, mais juste je l'ai mis pour vous rappeler ceci. Et puis il interroge Dieu. En est allé prier, lui il discute avec Dieu. Ce n'est pas un péché de discuter avec Dieu. Le péché, c'est de se révolter. C'est de commettre l'iniquité. Il parle avec Dieu, mais surtout, et c'est ça que nous, on ne sait pas faire. On sait parler à Dieu, on sait prier à Dieu, on sait lui dire, mais est-ce qu'on sait l'écouter après? Est-ce qu'on sait écouter sa réponse? Et c'est là notre problème. Ce n'est pas venir à Dieu et lui dire, c'est l'écouter. Et après que Dieu a parlé avec Job, il a su l'écouter et il a su reconnaître son tort, même s'il n'a pas eu la réponse au pourquoi de ce qui lui est arrivé. Et c'est ça la différence entre Job et nous, et ce qui fait de Job quelqu'un de différent. Il a su écouter Dieu, il a su reconnaître son tort. Et pour finir, et je finis là, quel est l'enseignement qu'on peut avoir aujourd'hui? Pour cela, on a vu au départ, dès la Genèse, Dieu dit « attention ». Élu dit « attention, attention, ne tourne pas vers le mal à cause de l'humiliation ». Mais Paul dit la même chose. Paul, il conclut le chapitre 12 avec ses recommandations aux chrétiens de Rome. Il le conclut comme ça. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il a repris les paroles de Dieu, de la Genèse. Il leur dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Même s'il y a commettre le mal, on ne peut pas le justifier. On ne peut pas justifier. Trois versets dans la Bible qui nous le démontrent. On ne peut pas justifier, même si c'est injuste pour nous. On peut le faire si on n'en peut plus, mais il faut demander pardon. Ce n'est pas Dieu qui le veut. Même si c'est injuste, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Psaume, on a eu une méditation là-dessus, donc je ne veux pas y revenir. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. On l'a vu quand on a étudié le psaume 37. Ça ne veut pas dire tais-toi, ne prie pas Dieu s'il t'arrive un malheur, accepte-le, ferme les yeux, tombe la tête. Non. Quand on dit, un oriental dit ferme ta bouche ou la ferme ou garde le silence, ça veut dire ne crie pas à l'injustice. Ne crie pas comme quoi la faute est sur l'autre, ainsi de suite. Ne crie pas à Dieu, c'est injuste ce que tu m'as fait, patani, patata, pourquoi tu as fait ceci, tu n'as pas vu cela. C'est ça que ça veut dire, garde le silence devant l'Éternel. Ne te révolte pas par la manière dont tu parles. Cela ne veut pas dire, ne va pas lui exposer le fond de ton cœur. Ne va pas lui exposer ce que tu crois comme injuste. Comme elle a fait Anne, comme il le fait Job, garde le silence, ne veut pas dire tais-toi. Veut dire ne te révolte pas contre Dieu, ce qu'il fait, en te croyant le seul juste, et Dieu est injuste vis-à-vis de nous. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Et je finirai par ceci. Le plus dur pour un chrétien n'est pas de défendre théologiquement ou même intellectuellement sa foi. Je vous garantis tout ce que vous voulez. On peut défendre théologiquement sa foi. On peut, quelle que soit l'autre religion. On peut la défendre. Certains d'entre nous ne sauront pas le faire, mais on peut le faire. On peut apprendre à le faire. Ce n'est pas le plus dur de défendre sa foi, foi théologique, je veux dire. Ce qui est le plus dur pour un chrétien, c'est de démontrer par les actes la transformation que Dieu ou que le Saint-Esprit
a opéré en nous.
S'il y a un endroit où on peut achoper, il est là. Il est là à démontrer par nos actes la transformation que le Saint-Esprit, que Dieu, que l'Éternel, ils ont opéré en nous. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, mon Dieu et mon Père, combien nous te sommes reconnaissants de nous avoir donné ces textes bibliques, ces recommandations, ces conseils de ta part. Nous souhaitons, Seigneur, les graver au fond de notre cœur. Nous souhaitons les méditer. Nous souhaitons que ces paroles nous transforment. Seigneur, aide-nous à l'accomplir. Sois notre maître en cela. Amen. Je laisse la place à notre frère Freud pour la suite. Merci.